À Gourdon, 104.8.
Voilà, après ce moment de prière et de recueillement avec le Regina Chili, c'est un bonheur de se retrouver avec ce magnifique soleil et ces températures qui sont même un peu chaudes pour la saison. Mais écoutez, on est heureux de passer cette fin de matinée en votre compagnie. Peut-être que vous êtes déjà à table. Eh bien, moi, je vous souhaite tout simplement un bon appétit. Dans quelques instants, eh bien, nous allons parler d'écologie avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie, monsieur François-Xavier Brunet des Hautes-Pyrénées. On pourra parler des entreprises et également d'écologie en sa compagnie. Et puis, un jour, un livre, un auteur. Mais cette semaine, on partira pour le Pas-de-Calais, puisque c'est un polar qui a été écrit et une enquête policière. Vous savez que 70% des livres qui sont achetés, c'est ce qu'on appelle de la littérature noire. Voilà, ce sont des polars, des trailers, des policiers, et uniquement 30% le reste de la littérature avec les romans classiques. Voilà, donc 70%, ben on ne peut pas ne pas en parler, donc eh bien on va découvrir cela dans un jour, un livre, un auteur, avec Diego Arrabal et Philippe Noni. Mais pour l'heure, on fait un point sur l'actualité locale de ce mercredi 8 avril 2026.
À Blagnac, un homme à scooter décédé hier matin dans une collision avec un fourgon. 10 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour sécuriser les lieux. Dans les Hautes-Pyrénées, à Bagnères-de-Bigorre, des tags racistes visant un élu découvert en ville. Une plainte est déposée par la mairie. À Figeac, Philippe Landrin, nouveau maire, lance sa feuille de route 2026-2033 pour une ville plus attractive avec baisse d'impôts, retour de l'éclairage nocturne et maintien des engagements écologiques. Fibre Excellence à Saint-Gaudens, officiellement en vente. La CGT présente un plan de reprise chiffré et réclame une protection étatique urgente. Goéliv, basé à Rodez, recrute massivement 2500 animateurs pour l'été 2026 en France et à l'étranger, leader français des séjours internationaux. Le Marathon des mots dévoile ses invités d'honneur pour sa 22e édition, avec Amélie Nothomb présente au programme dans la Ville Rose.
Et un grand merci à Lou Denville qui est avec nous, qui est étudiante à l'école de journalisme à lycée CPA Toulouse. C'est l'école de journalisme et de communication de Blagnac. Voilà, on la retrouvera tout à l'heure d'ailleurs pour le journal de la mi-journée. Dans quelques instants, on partira pour la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes avec son président, monsieur François-Xavier Brunet. On parlera d'écologie. Est-ce que c'est compatible avec le monde de l'entreprise et du commerce? C'est ce qu'il nous dira d'ici quelques instants. Mais pour l'instant, celle qui devrait venir faire un concert en France au mois de septembre, vous avez sûrement entendu parler, c'est Céline Dion avec Alive.
I get wings to fly. Oh, I'm alive. I'm a
La belle voix de Céline Dion à l'instant avec un live sur Radio Présence. Vous le savez, elle sera en concert. Elle revient à Paris au mois de septembre. C'était inédit. Il a fallu, pour acheter des places, faire un tirage au sort. Incroyable le succès de cette diva et qui a choisi la France pour venir faire son retour sur scène avec des concerts. Nous allons partir, non pas à Paris, mais à Tarbes, retrouver le président de la Chambre de commerce et d'industrie, monsieur François-Xavier Brunet. On va parler d'écologie en sa compagnie.
Radio Présence à Figeac, 97.7.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine à nouveau pour la chronique verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de me rendre à Tarbes. Plus exactement, je suis dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes-Pyrénées. Et j'ai l'honneur d'être aux côtés de son président, François-Xavier Brunet. Et si j'ai fait le choix d'aller à sa rencontre, c'est que, au-delà de sa mission importante de président de la Chambre de commerce et d'industrie, il a aussi un métier. Et dans son métier, il est assureur, et dans ses compétences et ses expertises, il a une compétence particulière sur le climat et les risques systémiques. Et puis enfin aussi, comme il est multicarte, j'ai aussi vu qu'il était président de l'OGEC, de l'Institut Jeanne d'Arc, et donc on évoquera aussi ses engagements en tant que chrétien tout au long de sa carrière, sa riche carrière sur ce territoire. Cher Président, ou je ne sais pas comment vous appelez, cher François-Xavier Brunet, d'abord, merci d'avoir accepté de me rencontrer. Je vais vous laisser peut-être deux mots de présentation.
Oui, on va éviter la titulature qui n'est jamais souhaitable, et je suis vraiment pas bon pour le protocole. Donc, je suis président de la Chambre de commerce et d'industrie depuis 2010, agent général d'assurance depuis 2008, fin 2008, début 2009, et depuis trois ans, comme vous l'avez dit, président de l'OGEC de l'institution Jeanne d'Arc Saint-Joseph ici à Tarbes. Donc, beaucoup d'engagement après avoir même eu près de 19 ans de vie municipale ici à Tarbes.
Cher Président, on va commencer par la CCI tout simplement et très rapidement, puisque bon, la CCI elle a quand même pour mission importante d'accompagner les entreprises sur ce territoire. Et puisque dans cette chronique verte, on parle de transition écologique, bon, j'imagine qu'il est mené des actions pour accompagner les entreprises dans ce domaine, j'imagine.
Oui, alors les chambres de commerce et d'industrie et celles-ci dans les Hautes-Pyrénées ne dérogent pas à la règle, ce sont des établissements publics de l'État, donc des structures publiques sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances, et avec les moyens qui nous sont donnés et avec ce que nous pouvons compléter par nos ressources propres, nous devons exercer un certain nombre de missions qui sont des missions qui sont fixées par la loi et par le contrat avec l'État, en tant qu'opérateur de l'État. Et parmi ces missions, il y a l'accompagnement des entreprises dans les différentes transitions auxquelles elles sont confrontées, que ce soit sur le plan énergétique, sur le plan climatique, mais on pourrait aussi rajouter les transitions numériques, qui sont très fortes, les transitions sociales, les nouvelles formes de travail, etc. Donc par rapport au sujet de préoccupation et de prédilection de votre chronique, cher Benoît Guillard, les transitions environnementales, écologiques, énergétiques sont un des sujets sur lesquels nos collaboratrices et collaborateurs interviennent. On a notamment ici une collaboratrice qui est plus particulièrement chargée d'accompagner les entreprises sur un certain nombre de problématiques, parfois en lien avec d'autres opérateurs de l'État comme l'ADEME, dans une coordination régionale avec l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie d'Occitanie.
Oui, donc bien évidemment que cette préoccupation est mise en avant. Ce qui va nous intéresser plus, c'est aussi votre expertise, puisque on n'ignore pas, vous êtes aussi assureur et vous avez une compétence nationale, on va dire, même sur le climat et le risque systémique. Et donc c'est intéressant d'avoir aussi votre regard, justement, en tant qu'assureur, sur tout ce qui se joue par rapport à ces dérèglements climatiques et tout ce que subit notre planète actuellement et les risques que nous-mêmes, en tant qu'humains, nous devons assumer.
Oui, alors, une compétence nationale, non. Disons que pendant trois ans, j'ai siégé au titre des chambres de commerce et d'industrie au sein du Conseil économique, social et environnemental à Paris. Et au cours de ce mandat de trois ans, j'y suis resté trois ans, j'ai été le co-rapporteur d'un avis qui a été adopté par le CESE sur les conséquences des risques systémiques sur le système assurantiel français. Il est évident que mon métier, mon expérience d'agent général d'assurance en en apporte la démonstration tous les jours, mais il suffit de regarder la télévision et d'écouter la radio, de lire les journaux, pour mesurer combien certains événements climatiques qui paraissaient décennaux, centennaux, ou que sais-je encore, sont aujourd'hui quasi quotidiens ou quasi hebdomadaires. Et que, comme disait le grand patron, l'ancien grand patron d'une grande compagnie d'assurance, on ne sait pas assurer un plus 4 degrés, un climat avec plus 4 degrés. Donc aujourd'hui, on est entre un plus 1,5 et plus 2 degrés. Donc on a des conséquences à la fois sur l'assurabilité des biens, l'assurabilité de certaines zones, et des conséquences également sur les tarifs d'assurance, puisque le poids proportionnel des catastrophes climatiques est de plus en plus fort dans la sinistralité des compagnies d'assurance. Et puis un certain nombre de choses qui se posent, notamment ces derniers jours en Bretagne, où on a pu voir qu'un certain nombre de lotissements, de zones d'activité, d'hypermarchés avaient été édifiés sur des zones qui s'avèrent être, ou dont on a fait semblant d'ignorer qu'elles étaient inondables. La question va se poser de la reconstruction à l'identique sur les mêmes zones. Je crois que on va avoir des mutations qui vont être très importantes. D'ailleurs, la plupart des assurés ont pu constater que leurs primes d'assurance ont augmenté au 1er janvier, tout simplement parce que, par exemple, sur les assurances d'habitation, le taux de la taxe catastrophe naturelle qui finance le fonds catastrophe naturelle est passé de 12 à 20%. Il faut bien financer un dispositif. Du reste, nous sommes en France un pays assez exemplaire et assez pilote en la matière, puisque depuis 1982, nous bénéficions d'un régime de catastrophe naturelle qui est extrêmement efficace, mais qui atteint ses limites devant l'ampleur et la multiplicité des événements climatiques.
Tout à fait, avec votre regard, et on va se tourner un peu plus sur notre territoire, sur ce beau département des Hautes-Pyrénées. Quel est votre regard justement sur ces risques systémiques dans les Hautes-Pyrénées actuellement?
Les Hautes-Pyrénées, j'allais dire, sont confrontées à des risques liés au changement climatique qui sont importants, notamment dans les zones de montagne avec l'érosion. On vient de le voir d'ailleurs dans la vallée de la Tarentaise chez nos collègues des Alpes, mais on sait par exemple que l'accès Gorge de Luz doit être sécurisé, donc bon, ça pose des questions de viabilité, d'accessibilité. On a dans le nord du département des zones qui sont très concernées par les sols argileux, et donc ce qu'on appelle alors la fissuration, les risques sécheresse, dit familièrement, mais qu'en techniquement on appelle le retrait-gonflement des argiles, c'est-à-dire que vous savez que l'argile a pour caractéristique physique de se dilater sous l'effet de la pluie, de se rétracter sous l'effet de la chaleur. Donc comme vous avez des distorsions, et donc ça vient attaquer les fondations des bâtiments, et donc le Val d'Adour est particulièrement concerné par ce risque.
Effectivement, tout le monde est concerné, en fait, et c'est une prise en compte globale qu'il s'agit de faire et de peut-être réimaginer à la fois l'habitat et puis les zones constructibles pour le futur, inévitablement. Hein.
Oui, et intégrer dans nos démarches la notion de prévention. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on ne pourra pas éternellement financer un système d'indemnisation fondé exclusivement sur le curatif. Donc il va falloir aller vers des démarches de prévention qui permettront de maintenir le bâti, de maintenir les activités et de d'amoindrir les conséquences sur nos concitoyens.
Cher François-Xavier, vous êtes aussi président de l'OGEC, de l'institut bien connu à Tarbes, l'institut Jeanne d'Arc. Donc peut-être expliquer à nos auditeurs très rapidement ce qu'est un OGEC, ce qu'est le rôle d'un président d'OGEC, et puis nous verser un petit peu votre regard, vous, sur justement l'enseignement catholique sur ce territoire, et sur Tarbes en particulier.
Oh ben, moi, je suis natif des Hautes-Pyrénées. Je suis extrêmement attaché à l'enseignement catholique puisque j'y ai usé mes fonds de culotte et même mes pantalons longs, puisque j'ai été tour à tour élève à l'école Saint-Joseph de Cantaos et au Collège et chez les pères de Notre-Dame de Garaison, et j'ai mes enfants qui ont été ou qui sont scolarisés à Jeanne d'Arc à Tarbes, puisque je vis depuis une trentaine d'années à Tarbes. L'enseignement catholique dans les Hautes-Pyrénées, mais comme ailleurs, est géré par ce qu'on appelle des OGEC, des organismes de gestion de l'enseignement catholique, qui sont des structures de nature associative et qui assurent, pour faire simple, le fonctionnement matériel et administratif des établissements. Ils le font soit sous l'égide d'une congrégation, si l'établissement est sous la tutelle d'une congrégation, soit directement sous la tutelle du diocèse et de l'évêque du diocèse, ce qui est le cas de Jeanne d'Arc Saint-Joseph, puisque nous n'avons pas de congrégation et que nous sommes un établissement diocésain, un établissement de 1200 élèves, qui va de la maternelle jusqu'à la terminale, qui est implantée sur deux sites, donc Jeanne d'Arc, rue Massé à Tarbes, et l'école Saint-Joseph, rue de Kronstadt, également à Tarbes, rue de Kronstadt, c'est juste en face du 1er HP, du régiment du 1er HP. Donc c'est un très bel établissement qui a une tradition, une notoriété ici à Tarbes, qui est un établissement extrêmement important. Et je crois que dans l'évolution de la société, dans le paysage éducatif, l'enseignement catholique a un rôle et un positionnement plus que jamais à tenir. Moi, quand je fais des réunions avec ou à la rentrée avec les enseignants ou avec les parents d'élèves, je leur dis toujours, non, on n'est pas dans un établissement privé, on est dans un établissement d'enseignement catholique. Donc lorsque l'on choisit de confier ses enfants à l'établissement d'enseignement catholique, on choisit aussi d'adhérer à un système de valeurs. On est une école ouverte sur la vie et la société, donc on ne demande pas aux parents de faire un acte de foi et de signer un acte de foi. Mais en tous les cas, on les invite à partager un système de valeurs qui sont les valeurs chrétiennes, qui sont des valeurs d'ouverture à la vie et au monde, mais qui sont des valeurs qui sont extrêmement fortes et que, ben, bénévolement, les membres de l'OGEC qui font partie de l'OGEC avec moi, essayons de faire vivre les efforts nécessaires pour faire tourner des établissements qui sont quand même avec des moyens somme toute limités, même si les parents versent une contribution, mais elle ne permet pas tout. Donc c'est un exercice d'équilibriste, mais un exercice passionnant.
Alors, puisqu'on en est là et qu'on va arriver vers la fin de cette chronique, j'avais envie de vous poser une question un peu plus personnelle, puisque vous êtes donc chrétien aussi, hein, bien sûr, et que vous êtes engagé à la fois dans la société civile et puis dans l'éducation, et à côté des enseignants et des enfants et des parents d'élèves. Et donc, un petit peu vous demander, en tant que chrétien engagé, vos espérances pour demain, notamment pour les jeunes en particulier.
Déjà, dans un premier temps, je dirais que je regrette que nous soyons arrivés dans un monde, cette année 2025, mais ça fait quelques années que cela dure, où les seuls qui n'osent pas s'affirmer comme tels, ce sont les chrétiens, et les catholiques en particulier, puisqu'il s'agit là, nous concernant, des catholiques. Je pense que ça n'est pas porter atteinte à la laïcité que de se revendiquer tel que l'on est. Je pense que d'ailleurs on est beaucoup plus tolérant à l'égard des autres quand on sait qu'on est soi-même, et en tous les cas qu'on ose l'affirmer. Donc moi, je sans pour autant faire du prosélytisme, je n'ai jamais dissimulé ma foi chrétienne et mon engagement en ce sens, même si je suis atteint par le phénomène de sécularisation et que, bon, je ne suis pas le paroissien le plus assidu à la messe dominicale, malheureusement. Mais en tous les cas, j'ai ces convictions et cette foi chevillée au corps, et je pense qu'il faut la porter haut, et c'est aussi, me semble-t-il, sans faire abusivement de politique dans cette chronique, je crois que c'est aussi un enjeu de civilisation. Et nous ne pouvons pas comprendre le monde dans lequel nous vivons, la civilisation européenne et française en particulier, qui est au croisement des civilisations gréco-romaines et judéo-chrétiennes, si on ne s'affirme pas. On ne peut pas comprendre la musique classique, on ne peut pas comprendre l'opéra, on ne peut pas comprendre la peinture, on ne peut pas comprendre la littérature, on ne peut rien comprendre, on ne peut même pas comprendre l'urbanisme de nos villes et de nos villages, organisés autour de nos clochers. Donc il faut se revendiquer comme tel. Donc je suis heureux de le faire sur les ondes de Radio Présence. Du reste, lorsque j'étais étudiant à Sciences Po à Toulouse, j'étais à votre place, cher Benoît, de l'autre côté du micro. Donc vous me rappelez mes jeunes années. Quant à mes espérances à l'égard de la jeunesse, moi je suis très inquiet. On a parlé des risques climatiques. Moi je suis, j'allais dire, presque beaucoup plus inquiet à l'égard du risque de guerre. Je suis comme vous certainement, peut-être, je dirais pas féru d'histoire parce que ça serait prétentieux, mais je suis amateur d'histoire. Et j'ai parfois l'impression de vivre au quotidien les lignes d'un chapitre qui pourrait, d'ici quelques décennies, s'appeler la montée à la guerre. Donc j'ai foi, certes en Dieu, mais également en l'homme. J'espère que tout ceci se calmera, s'apaisera. Mais moi je suis très inquiet pour les générations qui viennent, de ce point de vue-là. L'autre espérance que j'ai, c'est qu'on réussisse à construire un modèle de société qui soit moins anxiogène. Moi, je suis l'heureux papa de deux enfants, un étudiant de 21 ans et une collégienne de 14 ans. Et je vois autour d'eux, alors Dieu merci, ils vont bien, mais en tous les cas, je le crois. Je vois quand même monter à cette génération-là des problèmes de, sinon de santé mentale, en tous les cas d'équilibre et de confiance psychologique. Et ça m'inquiète beaucoup. Et la boucle, on va boucler la boucle de ma réponse, excusez-moi si elle est un peu longue, mais je crois nécessaire de revenir à la, sinon la revendication, au moins l'affirmation de nos valeurs et de notre foi, parce que cette génération-là est en recherche de sens et de spiritualité, en recherche de valeurs. Et comme nous autres chrétiens, nous avons un peu démissionné, ils vont se réfugier vers d'autres horizons. Et cela m'inquiète un petit peu, quand je parlais d'enjeux de civilisation.
Merci beaucoup, cher François-Xavier Brunet. Merci pour ce beau témoignage. Merci d'avoir m'avoir accueilli et donc d'avoir accepté de vous adresser aussi aux auditeurs de Radio Présence. Et puis merci pour votre engagement et votre témoignage de chrétien. Et puis donc, au plaisir de vous retrouver. Au revoir.
Avec plaisir, au revoir.
Radio Présence à Moissac, 93.3.
Imaginez le soir et les splendeurs barbares accoudées à ton bras. Imaginez courir dans les forêts, rire au rythme de ta voix. Imaginez l'amour, toi et moi dans la tour, les étoiles en plein jour. Imaginez la vie que je n'aurais jamais, en tout cas pas ici.
Sont-ils toujours un peu les mêmes ? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, bah y'a rien à dire, y'a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Sont-ils toujours un peu rebelles? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels? Y'a quelque chose qui vous éloigne un peu. Ce sont des choses humaines. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux.
Un homme heureux, à l'instant, le chanteur William Scheller sur Présence.
Radio Présence à Pau, 96.
Nous allons retrouver Lou Denville de l'école de l'ISCPA de Toulouse, l'école de journalisme et de communication de Blagnac, pour le journal de la mi-journée.
Un accident mortel s'est produit hier matin dans la matinée à Blagnac, impliquant un fourgon et un scooter. Le conducteur du deux roues est décédé sur l'avenue du Général Compense, malgré l'équipe d'urgence et de réanimation. Le conducteur du fourgon a été transporté à l'hôpital. 10 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour sécuriser les lieux et porter secours aux victimes. Des inscriptions à caractère raciste ciblant le maire de Saint-Denis. Découverte à Bagnères-de-Bigorre, depuis le maire de la commune, Nicole Darieutor, a déposé plainte et condamne ces actes de discrimination. Ces incidents font écho à d'autres attaques similaires visant des élus nationaux récemment. Philippe Landrin, élu maire de Figeac en mars dernier, veut rendre la ville plus attractive. Il rétablit l'éclairage nocturne et baisse les impôts de 500 000 euros pour les habitants. Le maire maintient le zéro phyto, c'est-à-dire la suppression des pesticides. Il accélère le bio à la cantine et poursuit aussi la renaturation du surgier. Le groupe Fibre Excellence est officiellement en vente sous mandat Rothschild. La CGT dévoile un projet industriel viable pour sauver le site de Saint-Gaudens. Les syndicats réclament une nationalisation temporaire et des actes de l'État. Une mobilisation massive se tient ce jeudi 9 avril devant l'usine. Le groupe aveyronnais Goélive lance une vaste campagne pour la saison 2026. Leader français des colonies de vacances et séjours sportifs pour les jeunes, l'entreprise offre 2500 postes d'encadrants en France et à l'international comme en Australie ou en Scandinavie. Ces missions aident les jeunes à accéder à leur premier emploi. À Toulouse, le Marathon des mots prépare sa 22e édition du 8 au 9 avril. Les organisateurs annoncent la venue d'Amélie Nothomb au Théâtre de la Cité. Le festival propose des lectures et rencontres avec le public à travers plusieurs lieux culturels de la ville, comme au Hall de la Machine ou la Chapelle des Carmélites.
Alors, c'est pas Lou Neuville qui nous faisait le journal, cette petite erreur, c'est Jenny Tcheb de l'École supérieure de journalisme de Toulouse. On retrouvera d'ailleurs dans cette semaine et les semaines à venir. Dans quelques instants, nous allons retrouver un jour un livre, un auteur, et puis à 13h, vous le savez, ce sera toute la rédaction française de Radio Vatican pour le journal national et international. Pour, je vous propose maintenant d'aller partir pour le nord de la France et retrouver donc l'auteur du livre qui a été sélectionné par Philippe Joly et Diego Rabal.
Présence à Auch 89.6.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arabal, Philippe Subercase.
Un jour, un livre, un auteur, Diego Arabal, bonjour.
Bonjour mon cher Philippe.
Bon, aujourd'hui, Diego Arabal, vous revenez sur vos terres préférées.
Je reviens à mes amours et mes terres privilégiées.
C'est-à-dire un roman intimiste.
C'est le polar.
Ah non, c'est le polar.
Bien sanglant.
Mais, à vous la parole.
Voilà, la semaine dernière, nous étions du côté de la Normandie avec votre invité. Et cette semaine, nous allons aller du côté de la Bretagne. Non pas l'endroit où habite mon invité, mais l'endroit où se déroule son histoire. Bonjour Jeanne.
Bonjour Diego. Bonjour
donc, nous recevons Jeanne de Zobry pour son roman. C'est une romancière chevronnée. Donc là, c'est son nouveau roman, La morsure des embruns, aux éditions Arcane 17 dans la collection Polar Rouge. Donc voilà, bonjour Jeanne, c'est avec grand plaisir que je vous reçois. C'est la première fois que je vous reçois, on se connaît parce qu'on s'est déjà croisés, mais c'est la première fois que je vous reçois sur cette antenne.
C'est un très beau titre, La morsure des embruns.
Oui, disons qu'il va très bien avec l'histoire.
D'accord.
Voilà. Alors Jeanne, comme je vous l'ai dit hors antenne, on a une habitude dans cette émission, c'est que je fais une petite présentation de l'ouvrage dont on parle et de l'invité que je reçois, et que à partir de cette description du roman, l'invité il a le droit de réagir. Alors heureusement vous êtes au téléphone. Donc je ne risque pas de me prendre un coup de parapluie, mais vous aurez le droit de réagir vertement si c'est nécessaire.
Eh bien, allons-y.
Alors allons-y. La morsure des embruns de Jeanne de Zobry aux éditions Arcane 17, collection Polar Rouge. Joanne Estelle Doucet, qu'on appelle aussi Jed, est une scénariste et romancière d'une quarantaine d'années qui a investi la plus grosse partie des droits d'une série de télévision dans la réfection d'un bunker devenu la casemate maison autonome sur la côte bretonne. Misanthrope, elle se fait violence pour s'abriter avec toute la population du petit village alors qu'une violente tempête doit balayer la côte bretonne. Bon, c'est assez proche de ce que nous vivons depuis quelques semaines. Le lendemain de la tempête, Jed trouve un bras échoué sur la grève sous sa maison. Impossible à identifier, il est pris en charge par la gendarmerie. Les questions ne manquent pas. Est-ce celui d'un pêcheur disparu depuis quelques jours, celui d'un trafiquant ou d'un de ces passeurs qui écument la côte? De son côté, Jed mène ses propres recherches car elle est persuadée que c'est celui de son fils Philippe avec lequel elle entretient une relation, disons, très difficile. Rapidement, Jed fait figure de suspect idéal pour les gendarmes, que la personnalité borderline de la femme dérange. D'autant plus que la découverte de son bateau volé quelques jours plus tôt, révèle la présence de sang hâtivement nettoyé. Dans ce roman court et percutant, Jeanne de Zobry nous invite à explorer le quotidien des gardes-côtes de la Manche, celui des réfugiés qui tentent avec constance de quitter le sol français pour atteindre l'Angleterre qu'ils idéalisent, et enfin les angoisses d'une femme traumatisée dans sa tendre enfance. L'écriture est fluide, nerveuse, et interroge sans relâche le lien qui existe entre un jeune migrant cherchant désespérément à traverser la Manche par des chemins inédits et l'énigme du bras. Au lecteur de le découvrir en suivant la quête de cette femme imprévisible, un roman plus que nécessaire aujourd'hui pour tenter de comprendre notre monde en particulière débâcle. La morsure des embruns, Jeanne de Zobry, édition Arcane 17, Polar Rouge.
Voilà. Je souscris au mot débâcle.
Ah, tout à fait, tout à fait. Je crois qu'on est bien, dans cette situation-là. Jeanne, ce roman, il est quand même extrêmement personnel.
Oui, mais enfin, si c'était pour faire un livre de recettes, on serait pas en train de parler.
Oui, mais je veux dire que c'est quand même une question à laquelle vous êtes attaché, cette question de la migration, cette question de la violence, etc. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de d'écrire ce roman sous cette forme-là? C'est-à-dire avec ce personnage-là et dans ce contexte.
Alors, si on parle du personnage de la femme, c'est même si elle est plus larvée, si on en parle peu, là aussi il y a une violence considérable. Mmh. Mais ce que vit Jed n'est pas totalement exceptionnel et le sort des femmes est rien moins qu'enviable. Elle représente une moitié de la population mondiale et certainement la moitié la plus esquintée en permanence. Et donc, quelque part, il y a une fraternité entre elle et ce migrant qui, lui, subit une autre forme de violence de la part de la société. Donc, et puis, je ne sais pas vous dire, mais quand je repense à mon personnage de Boubacar, pour lequel j'ai vraiment une grande tendresse, me revient une réflexion d'une dame très bien sous tout rapport qui m'a dit, ayant sans doute regardé un reportage sur BFM, oui, alors tous ces migrants, bien sûr, ils n'ont rien, mais moi, j'ai un vieux téléphone à clapet, il faut voir, ils ont tous des iPhones. Et j'ai été tellement... C'est vraiment souvent comme ça que je démarre un roman, une écriture, une nouvelle. C'est sur une réaction instinctive à quelque chose que je viens d'entendre. Mmh. Parce que c'est effectivement, ils ont certainement des portables, mais c'est tout ce qu'ils ont.
Oui, voilà. C'est leur seul.
Et quelquefois, ils peuvent même pas les
charger. Utiliser. Ouais. Mmh. Oui, et puis c'est aussi le seul point de contact qu'ils ont pour pouvoir bien éventuellement sûr. Appeler leur famille qui est restée loin en arrière et qui attend à la fois des informations, mais qui attend aussi des nouvelles pour savoir si réellement la personne a réussi et qui attend aussi qu'on l'aide, quoi, parce que c'est
voilà, tout à fait.
Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est quand même le fait que des gens quittent leur vie et traversent des épreuves qui sont innommables, ils le font pas pour le plaisir. Les migrants ne sont pas des expatriés.
Non du tout, ce sont des gens qui abandonnent tout derrière eux, leur mode de vie, leur famille, la sécurité. Quelquefois, ils fuient, bien sûr, des situations terribles, mais souvent aussi, ils fuient une espèce de misère organisée par notre système, en gros, qui les réduit à rien et qui en fait des populations qui manquent de tout. Donc, avoir le courage de tout laisser derrière soi, je trouve que ça mérite un minimum de respect.
Tout à fait. Votre personnage, Jed, est un personnage écorché. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu sa vie, rapidement? Sans déflorer le roman, mais raconter un peu sa vie.
Jed, certainement, bien que ça soit jamais dit dans le roman, elle est atteinte d'une maladie psychique. Hein. Elle est probablement soit bipolaire, soit ce qu'on appelle les gens borderline, c'est-à-dire qu'elle est effectivement c'est une écorchée, c'est-à-dire qu'elle elle ne supporte rien, elle préfère mordre avant que d'aboyer, elle se protège. C'est pas pour rien qu'elle vit dans un bunker, hein. C'est quelqu'un qui a les mitraillettes. Voilà, elle a les armes en batterie en permanence. Elle se laisse toutefois, on le voit sur la fin du roman, elle peut se laisser toucher, attendrir, mais elle a souffert de viol incestueux, elle a souffert de viol tout court, elle a souffert d'incompréhension aussi, de manque d'amour, de tendresse, et donc elle se protège en attaquant, voilà. Donc elle n'est pas forcément facile à vivre. Elle arrive quand même à construire une relation avec un des personnages que j'aime beaucoup, qui est le généraliste sénégalais installé en Bretagne profonde. Et si on n'aime pas les Noirs, on adore Diop quand même, hein, au village. Quoi. Voilà.
Oui, je veux dire qu'au départ, c'est ce que vous racontez un peu, il a été regardé un peu de haut et avec une grande crainte. Et puis, je veux dire, c'est quelqu'un qui a su, à travers ses compétences et son humanité, parce que c'est quand même quelqu'un d'extrêmement humain et qui est très résilient. C'est-à-dire que, vivre ou du moins avoir une relation avec Jed, puisque c'est le cas dans votre roman, nécessite une dose de résilience et d'abnégation qui est assez extraordinaire. Et on ne peut que dire que cet homme est, je dirais pas que c'est un saint, mais c'est quelqu'un qui est ouvert, voilà, qui est ouvert et même très ouvert.
Il connaît aussi la richesse de cette femme.
Oui,
c'est une artiste. Bien sûr, j'en fais une romancière, une scénariste, mais elle est aussi dessinatrice. Et donc, il apprécie la complexité du personnage parce que lui-même est un homme intelligent qui ne s'attend pas juste à ce que madame mette la soupe dans l'assiette quand il rentre le soir.
Même si elle fait très très bien à manger, je dois dire que quand vous décrivez certains des repas, ça donne envie de s'installer à table avec
écoutez, je me suis interrompue dans la préparation de paupiettes aux champignons sauvages, là.
Désolé. C'est l'heure de déjeuner.
Oui, mais c'est important, ça fait partie des choses importantes de la vie. C'est un peu comme, je ne saurais pas écrire un roman où il n'y aurait pas d'odeur, où il n'y aurait pas de cuisine, où il n'y aurait pas de bon vin, où il n'y aurait pas, même quand c'est un roman qui peut avoir des côtés durs comme celui-ci, il y a aussi de l'humanité, de l'espoir, et ça passe notamment par ça.
Ouais, je veux dire en lisant votre roman et en découvrant ce qu'elle fait à manger, ça m'a fait penser à Montalban, bien sûr, avec à chaque fois. Voilà, et puis ça, on retrouve aussi cette présence, cette importance de la cuisine comme moment pacificateur. On le retrouve aussi dans les Maigret, parce que quand on le voit arriver quelque part, il traîne, il boit son petit verre de blanc, et puis il s'installe et il mange un sauté de veau ou autre chose.
C'est souvent de la bonne cuisine.
Voilà, c'est de la bonne cuisine traditionnelle, voilà. mais c'est un élément important parce que c'est aussi un élément pour faire réfléchir. Ça donne de l'énergie, bien sûr. Ça donne du temps et ça permet aussi de mettre à distance. C'est-à-dire que pendant que l'on est en train de déguster quelque chose, le cerveau continue à travailler et à faire avancer l'histoire, quoi.
Et vous avez souligné que le temps du repas est aussi un temps de partage.
Tout à fait.
Parce que cuisiner pour soi tout seul, c'est un peu tristoun, quoi. Mais cuisiner pour les autres, partager, recevoir des remerciements, c'est quand même un grand bonheur.
Oui, et puis de voir la mine réjouie de ceux qui se régalent avec ce qu'on a fait, même quand lorsque c'est simple, mais voir la mine réjouie des autres, c'est un cadeau extraordinaire. Et y a aussi, je veux dire, vous avez quand même une galerie de personnages qui sont intéressants. Il y a le capitaine des gardes-côtes là, avec bon, vous démarrez sur, toujours en parlant de cuisine, on vous démarrez sur la question du cuistot qui risque la question du cuistot qui risque de demander sa mutation et où les membres d'équipage sont pas du tout d'accord pour le laisser partir. Mais ce capitaine, c'est quelqu'un quand même, on le voit pas beaucoup puisque ça dure un chapitre ou un chapitre et demi, mais c'est quelqu'un de particulièrement posé, c'est quelqu'un d'extrêmement humain aussi. Vous pouvez nous en dire quelques mots?
Ah oui, j'aime beaucoup.
C'est un personnage que vous avez rencontré, je pense.
Oui, oui, c'est quelqu'un qui existe en vrai, en chair et en os, qui m'a consacré, qui a accepté de me consacrer du temps. Je suis allée le rencontrer à Cherbourg. Il m'a expliqué le fonctionnement, puisqu'il était, malgré, bien qu'habitant Cherbourg, il est basé à Boulogne. Et donc il m'a parlé de son quotidien et du fait que de plus en plus ils font beaucoup moins de contrôle qu'autrefois, puisque les douaniers étaient autorisés à aller inspecter les bateaux en haute mer, et qu'ils font de plus en plus du secours. Il y a eu un peu plus de 40 000 traversées l'année dernière.
C'est énorme.
De la Manche. C'est énorme, oui. Il n'y en a pas eu du tout, je crois, au mois de novembre, parce que les conditions de mer étaient mauvaises.
Ouais.
Mais ce personnage m'a dit des tas de choses qui m'ont vraiment touchée, qui m'a dit il y a tous ceux qu'on secourt, et il y a tous ceux à côté de qui on passe, et ma hantise, c'est de ne ramasser que des corps.
Et
la Méditerranée est déjà devenue un vrai cimetière, et la Manche est en passe de devenir un autre cimetière. C'est vraiment un être pétri d'humanité honnêtement, je ne sais pas combien de temps il tiendra. Parce qu'il m'a semblé très très atteint moralement et affectivement, et il m'a dit que son métier devenait de plus en plus dur et qu'il prenait la mer. Alors ils partent pour 2 semaines en mer, et qu'il prenait chaque fois la mer avec un nœud au ventre en se demandant ce qu'ils allaient trouver.
Ouais. Et puis il y a aussi tous ceux qui disparaissent et dont on ne retrouve même pas les cadavres.
Voilà.
Aussi.
Ouais. Voilà.
Ouais, ouais.
Ils disparaissent anonymement. En fait, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Je trouve que c'est un destin atroce, parce qu'en plus, je pense à tous les gens qui, de l'autre côté, les ont vus partir et n'en savent plus jamais rien. Je trouve que c'est une des choses les plus horribles qui soient. Et il y a un petit personnage qui passe très vite dans le roman, qui justement souffre d'une disparition, d'une autre disparition, de celle de son mari, qui un jour disparaît, tout simplement.
Oui, il y a un marin pêcheur.
Voilà, il y a l'histoire du marin pêcheur. Mes personnages sont souvent des femmes qui sont comme ça dans l'attente, finalement, de savoir. Et Jed, au contraire, elle rentre dans l'art et elle n'attend pas de savoir. Elle veut être maîtresse de son destin.
Elle veut avoir une vie normale, quoi. C'est-à-dire pouvoir décider par elle-même de ce qu'elle
Bien
veut.
Sûr.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un peu de Jed en vous ou de vous en Jed?
Forcément, quand on écrit un roman, oui, il y a toujours un peu de ça. L'autre jour, il y a deux ou trois jours de ça, j'essayais de convaincre mon mari de faire quelque chose. Et comme il résistait, je dis à la troisième personne qui était là, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il est têtu. Et il a beaucoup ri et il a dit, mais je crois que je le suis moins que toi. Et du coup, depuis, je m'interroge, je me dis, mais en quoi je suis têtu, moi qui suis si douce de caractère? Bon, faut bien reconnaître que oui, il doit y avoir de Jed en moi, oui, bien sûr.
Mais en poussant
un peu les curseurs quand même.
Ouais, non, je pense qu'il faut quand même pousser pas mal, parce que Jed, elle est quand même gratinée, pour, excusez-moi l'expression un peu vulgaire, mais elle est quand même gratinée. Et là, quand je lisais le roman, c'est vrai que je me disais que Diop est un amour, quoi, parce qu'il est
solide, en tout cas.
Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi, et on va terminer sur ce personnage-là, j'ai beaucoup aimé le personnage de l'avocat.
Je me demandais quand est-ce que vous parleriez de Papageno. Ah oui, celui-là, il est très fantaisiste. Oui, c'est un... Alors, on n'a pas dit que Diop avait une relation avec Jed, mais qu'il n'était pas exclusivement attiré par les dames.
Il est bisexuel, oui.
Il est bisexuel, et évidemment, ça fait partie des étrangetés qu'on a eu un petit peu de mal à encaisser dans son village breton. Et les vieux pêcheurs commandent ça au bar du... Au bar des baleines, du phare et des baleines, là, quand même. Et donc, quand on voit débarquer, il y a la nécessité de faire soutenir Jed à un moment par un avocat. Et l'avocat que le recrute pour elle, Diop, qui est un de ses amis, est un peu, voilà, je l'appelle Papageno, elle l'appelle Papageno.
Papageno, parce... oui. Mais c'est quand même un sacré avocat. C'est-à-dire que quand il meurt, il lâche pas forcément prise. Et la juge, qui est quand même assez détestable, disons qu'elle elle est quand même sujette à beaucoup de morsures de la part de cet avocat et qu'elle doit lâcher prise à un moment donné parce que lui ne lâche pas prise.
Oui. Ouais. Oui, il laisse pas passer, il est du côté de sa cliente, bien sûr, mais à fond. Et de la même manière qu'il est extrême dans ses fantaisies, il est extrême dans son engagement auprès de sa cliente. Mais cette juge, c'est un personnage féminin qui vient un peu en contrepoint de Jed. Parce que je ne voudrais pas qu'on pense que je suis une espèce de féministe obsessionnelle. Et la juge, elle est moche, elle est un peu crade, elle est un peu bête, elle est surtout jeune et elle est surtout inexpérimentée et imbue de son pouvoir.
Voilà, oui.
Donc mais toutes les femmes ne sont pas des saintes.
Oui, oui, mais c'est ça aussi qui est que j'ai trouvé très très fort dans le roman, c'est cette palette de personnages dont aucun n'est vraiment caricatural. C'est-à-dire que chacun d'entre ces personnages soit a un côté négatif pour le cas par exemple de la juge, mais a aussi des côtés positifs et on trouve vraiment une vraie galerie de portraits au sens, je dirais, de ce qu'était le feuilleton au 19e siècle, quoi, où on avait des portraits très à la fois très typés, mais qui, dans leur accumulation, couvraient bien un peu le spectre de la société en général, quoi.
Il y a le gendarme de Oui-Oui.
Ah, il y a aussi le gendarme qui est un breton pur bretonnant et dont le premier prénom est Mahomet.
Voilà.
Ça, c'était assez...
Ça a été un vrai bonheur d'écrire ce roman et en même temps, ça a été un peu un crève-cœur de voir que tout ce que je racontais finalement, quand j'ai commencé l'écriture du roman, on ne parlait que de la jungle de Calais, on parlait plus de Grande Sainte puisque Grande Sainte a brûlé, mais on parlait de Calais et de ses environs. Et puis maintenant, on dit bien qu'il y a de plus en plus d'accidents en mer parce que Calais étant devenu totalement impossible, quel que soit le moyen, entre les camions, les trains, le tunnel et les bateaux, c'est devenu impossible et donc les migrants descendent. Mais quand on est à Dieppe ou au Havre, on a 100 km de mer, on n'en a plus 30.
Oui, tout à fait. Une mer extrêmement mauvaise en temps normal, je veux dire que les tempêtes sont fréquentes, et puis surtout, c'est les rails qui sont hyper fréquentés, et où les priorités ne sont absolument pas respectées vu la taille des navires qui sont sur ces rails.
De toute façon, ils sont tellement énormes qu'ils ne peuvent pas éviter. Ils ne voient pas et ils sont obligés de ralentir. Ils ne peuvent pas ralentir s'ils étaient obligés. Et donc, voilà, il doit y avoir beaucoup d'accidents, bien sûr.
Tout à fait. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est arrivé quasiment au bout de cette interview. Juste une dernière question. Là, vous faites vivre ce roman qui vient juste de paraître. Hein. Il est en librairie depuis la semaine dernière, 15 jours. Donc, il vient juste de paraître. Vous avez déjà des idées de manifestations dans lesquelles vous le présenteriez?
Bien, écoutez, je vais le présenter à Berck au mois de mai, au festival qui a lieu au Kursaal, le premier week-end de mai. Et puis le deuxième week-end de juin, au très beau festival des encres noires au Havre, justement. Et puis sans doute à l'hiver, au festival de Vitry. Enfin bon,
Donc il y a une tournée qui est en perspective.
Oh, c'est pas une tournée de stars, hein. C'est pas.
Quand même.
Jean-Philippe Smet sort de ce corps, hein. C'est pas. Mais je serais heureuse, oui, de le présenter au public autant que possible, bien sûr.
Oui. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de belles signatures, Jeanne. Donc, je rappelle que votre roman s'appelle La morsure des embruns. Il est paru aux éditions Arcane 17 dans la collection Polar Rouge. J'espère que quand vous aurez d'autres publications à l'avenir, on aura le plaisir de vous recevoir dans cette émission.
Écoutez, le plaisir sera pour moi.
Et nous, on compte sur Diego Arrabal pour nous faire découvrir des polars. Hein, je veux dire, il est passé maître dans l'art. C'est le maître S-polar, Diego Arrabal, de Radio Présence, un jour un livre, un auteur.
C'est un bon spécialiste, je le confirme.
Merci beaucoup. Au revoir, Jeanne.
Au revoir aux
auditeurs aussi et nos amis qui sont là en régie. À côté de moi.
Voilà, faut pas les oublier, les personnes en régie, parce que s'il y a personne en régie, il n'y a plus d'émission.
Voilà.
On les remercie pas souvent, c'est vrai. Vous avez raison, Diego.
C'est important de remercier ceux qui sont dans l'ombre et qui, lorsqu'ils ne sont pas là, l'ombre, elle couvre tout.
On va terminer sur ça, Diego Arrabal, et se dire à la semaine prochaine. Hein. On ne peut
à
que faire ça.
À la semaine prochaine.
Merci. Au revoir, Diego Arrabal.
Au revoir.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni, Philippe Subercase. L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur Internet, radioprésence.com et sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter.
Dans le Luchonnet, 94 FM.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Seul le dialogue peut mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, assure Léon XIV devant les 30 000 fidèles réunis place Saint-Pierre pour l'audience.